Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est un bicentenaire que Franck Ferrand a choisi de célébrer aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'anniversaire exact était hier en fait, hier dimanche 20 mars. 200 ans plus tôt en effet, naissait un bébé qu'une grande majorité de Français considéraient, on peut dire comme un membre de leur propre famille. Napoléon François Joseph Charles, roi de Rome, le fils unique, le fils chéri de Napoléon Ier, celui qui devait être si furtivement Napoléon II, avant de connaître un exil sans fin en Autriche, sous le nom de duc de Reichstadt.
Alors le roi de Rome, c'est bien ce prince qu'Edmond Rostand avait baptisé de mémoire l'Aiglon.
Oui, l'Aiglon, le fils de l'Aigle, une superbe pièce en verre, un peu oubliée aujourd'hui, et qui a peut-être été le plus grand succès de Sarah Bernhardt au début du dernier siècle. Sur l'Aiglon et sur son terrible destin, nous attendons évidemment, comme tous les jours, vos suggestions, vos remarques, vos questions.
Sur la page Facebook de l'émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire, mais aussi par mail à l'adresse d'Europe 1, europe1.fr.
Voilà, je vous propose de faire tout de suite un bond de 2 siècles en arrière.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
La naissance dont on célèbre aujourd'hui, ou plutôt dont on a célébré hier le bicentenaire, a été attendue en 1811 et attendue avec fébrilité par tout un peuple. Et quel peuple ? Les Français d'alors, ce sont déjà plus de 30 millions de sujets répartis sur quelques 132 départements, des frontières du Danemark à celles de la Calabre, de Barcelone à Venise et aux confins du Monténégro. Alors, c'est ce grand empire à son apogée auquel il convient du reste d'ajouter tous les pays inféodés odé à la famille Bonaparte et qui communie à cette époque dans l'épopée napoléonienne. De Hambourg à Naples, de Brest à Varsovie, en passant par Berlin, par Vienne, par Madrid, l'enfant de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice Marie-Louise est espéré comme une sorte de messie. Alors, avant d'en venir à cette naissance tellement attendue, il faut peut-être que je vous rappelle pourquoi Napoléon, qui est alors au pouvoir depuis 12 ans et règne depuis 7, pourquoi cet empereur était jusqu'alors sans descendance ? Oh, c'est tout simple. Il se trouve que l'impératrice Joséphine n'était pas parvenue à lui donner un héritier. Et comme elle-même avait déjà eu 2 enfants d'un premier mariage, eh bien l'empereur avait conclu tout naturellement que cette stérilité venait de lui. Il avait fini par s'y résigner, plus ou moins. Et puis ne voilà-t-il pas que sa maîtresse polonaise, Marie Walewska, lui annonce tout à coup qu'elle est enceinte. Ah, mais ça change tout, se dit le conquérant, obsédé par l'idée de sa succession. Nous sommes alors à l'automne 1809. Napoléon va devoir prendre une des décisions sans doute les plus douloureuses de sa vie, celle de répudier sa chère Joséphine, afin de pouvoir épouser en seconde noce une femme qui lui donnera l'héritier nécessaire. Reste à choisir parmi les princesses d'Europe. Et là, eh bien, c'est toute l'ironie de l'histoire. Le choix impérial se porte sur la petite nièce de l'infortunée Marie-Antoinette, la fille de l'empereur François d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise. Tout se passe à ce moment comme Napoléon pouvait l'espérer, si bien qu'au début de l'été 1810, la France et l'Europe apprennent que la nouvelle impératrice attend un heureux événement. Nouvelle d'une importance capitale, parce que s'il s'agit d'un fils, ça va rendre possible ce qui, jusqu'ici, apparaissait un peu comme une utopie, l'installation véritable en France de la dynastie des Napoléons. Cette naissance doit ancrer l'Empire dans le temps. Elle transforme en une création tangible, réelle, ce qui jusqu'ici n'était qu'un état provisoire, un état d'exception, si vous voulez. Seulement, j'insiste, encore faut-il, pour tenir compte de la vieille tradition monarchique française, encore faut-il que l'enfant soit un garçon. Curieusement, tout le monde paraît convaincu qu'il s'agira bien d'un fils, à commencer par le couple impérial lui-même. On se dit qu'après le souverain de guerre, va venir le temps du souverain de paix. Et l'on décide que dès le berceau, le nouveau-né ceindra la couronne des États du Latium et sera fait roi de Rome. Le roi de Rome, bien avant sa naissance, tout le monde s'habitue à ce titre. Vous imaginez la pression sur les épaules de cette pauvre Marie-Louise. Elle doit passer ses journées à prier pour que son enfant ne soit pas une fille. En attendant, rien ne sera trop beau pour préparer cette naissance et avènement. événements et avènements. Je peux vous dire que s'il y a de jeunes mamans qui nous écoutent, elles vont halluciner. Le trousseau du bébé, ce doit être 100 fois, qu'est-ce que je dis 100 fois, 1000 fois ce que l'on a pu voir pour les plus grands princes. Des quatre coins de l'Europe, 9 mois durant, des petites mains besogneuses vont s'ingénier le jour, la nuit, à tisser, à filer, à coudre, broder, rebroder d'or et d'argent la plus fastueuse layette de tous les temps. Les langes, les bonnets, les bavoirs, tout est paré d'abeilles impériales et de couronnes royales. Et cette fois, on ne compte pas les articles par douzaines, comme c'est la tradition d'habitude dans les maisons royales, ni même par centaines, mais par douzaines de douzaines. Les bonnes fées de tous les corps de métier vont se pencher sur le berceau du roi de Rome. Alors parlons-en de ce berceau. Prudhon va livrer un incroyable couffin d'apparat, chef-d'œuvre de nacre et de vermeil. Napoléon vise très haut, il voit très grand pour son héritier et déjà on pose sur la colline de Chaillot les fondations de ce qui doit, sous le nom de palais du roi de Rome, devenir la plus gigantesque cité interdite du monde. Napoléon l'a défini, il voudrait que ça devienne, je le cite, un Kremlin 100 fois plus beau que celui de Moscou. Parmi ces trésors dévolus au futur bébé, le moins précieux n'est pas sa propre gouvernante, qui est une véritable dame de l'ancien régime, Madame de Montesquieu, que le bébé appellera Maman Q. Elle a, vous savez, cette espèce d'élégance innée, d'éducation souveraine, ce chic racé inimitable de ceux qui ont fréquenté l'ancienne cour de Versailles. Madame de Montesquieu s'apprête à gouverner à toute une maison constituée, sous-gouvernante, berceuse, femme de garde-robe, écuyère, huissier, maître d'hôtel, etc., etc. Une véritable armée de pouponnières au service d'un nourrisson qui n'est même pas encore venu au monde.
La 7e symphonie de Beethoven, 3e mouvement, Franck Ferrand.
Oui, elle est de 1813, je crois, cette symphonie.
Précisément.
Mais bon, on n'est pas très loin de notre époque. L'issue de la grossesse approche à grands pas. Le 19 mars 1811, l'impératrice commence à sentir les contractions. Alors, c'est le branle-bas de combat aux Tuileries. Il n'est que 7h du soir, la nuit promet d'être longue. Les dignitaires de l'Empire se préparent à tenir une véritable veille. Et là, chacun retient son souffle. Est-ce que ça va être un garçon? Est-ce que ça va être une fille? Évidemment, il y en a un qui est plus anxieux que les autres, c'est le sieur Dubois, qui est l'accoucheur attitré et que l'étiquette impériale prive de l'assistance d'une sage-femme. Il ne peut même pas compter sur le soutien du célèbre médecin de l'empereur, Corvisart. Pourquoi ? Oh, ben parce qu'à 10h, Corvisart est tout simplement allé se coucher. « Tout se passera bien », a-t-il lancé dans un dernier bâillement. Dubois regarde Corvisart sortir, il est consterné. Or, bientôt, il sent la panique le gagner. L'impératrice se sent mal, et chose très rare, ça arrive en fait dans moins d'un cas sur 2000. La poche amniotique a crevé. Dubois, la gorge nouée, se précipite chez l'empereur, qu'il trouve plongé dans un bain très chaud, histoire sans doute de se détendre. Napoléon se rhabille en toute hâte. Il suit l'accoucheur jusqu'au chevet de sa femme. « Comment allez-vous faire ? Oh, je vais devoir utiliser les fers, » dit le pauvre Dubois. « Ah, mon Dieu, mais quel est le danger ?» Sire, il va falloir choisir, ménager la mère ou l'enfant. La mère, c'est son droit. Avec la mère, j'aurai un autre enfant. Et là, l'empereur ajoute ces mots magnifiques. La nature n'a pas de loi, monsieur. Faites comme s'il s'agissait d'une petite bourgeoise de la rue Saint-Denis. Conduisez-vous exactement comme si vous attendiez le fils d'un savetier. Dans la chambre, la pauvre Marie-Louise hurle à présente douleur. Madame de Montesquieu s'évertue à la tranquilliser. Dubois manque de défaillir. Il est blême, il sue à grosses gouttes. Il refuse d'intervenir sans l'assistance de Corvisart. Il faut que l'empereur se fâche. « En voilà assez, Dubois. Je vous ordonne d'accoucher l'impératrice. » Sur quoi Napoléon se replie dans le petit cabinet de toilette attenant. Il est exsangue. L'enfant qui se présente par les pieds naît au forceps. Et quand l'empereur rentre au chevet de son épouse, son fils, car il s'agit bien d'un garçon, présente toute l'apparence d'un enfant mort-né. Certains iront même jusqu'à prétendre qu'on l'aurait abandonné par terre sur un tas de couvertures. On a réveillé Corvisart, il se présente enfin, il baigne l'enfant, il le tapote doucement, et là, Le miracle va se produire avec énormément de retard. Le nouveau-né prend enfin sa respiration. Il pousse son premier vagissement. L'empereur en a le souffle coupé. Ça y est, Napoléon, François, Joseph, Charles, roi de Rome, héritier du plus puissant empire de la planète, est né.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Au cœur de l'histoire célèbre aujourd'hui sur Europe 1 le bicentenaire du roi de Rome, Franck.
Le roi de Rome qui est né à 8h du matin ce mercredi 20 mars 1811. Il y a donc 2 siècles et un jour. Mars, hein, déjà, Mars, le dieu de la guerre qui va marquer cette destinée. La porte de la chambre est ouverte et devant la cour assemblée, l'huissier a crié « Messieurs, voici le roi de Rome ». Et à présent, tout le monde pleure de joie. L'empereur envoie ses pages à tous les relais de poste et de télégraphe. On va envoyer la nouvelle dans toute l'Europe. Et puis, à Paris, il avait été prévu que si c'était une fille, on donnerait 21 coups de canon. Si c'était un garçon, 101. Ce qui fait qu'au moment où, vers 10h du matin, les coups de canon commencent à retentir, tout le monde s'arrête, les Parisiens se fichent dans la rue. Ils écoutent, ils comptent 19 coups, 20 coups, 21 coups, 22 coups, 23. Et là, une immense, une puissante clameur s'élève dans le ciel de la capitale en liesse et pendant toute la journée. En attendant les grandes illuminations, les feux d'artifice, ce ne sont que chansons rondes, embrassades, enthousiasme inouï qu'on ne revivra plus avant un siècle au moment de l'armistice de 1918. Aux Tuileries, l'empereur est là qui observe la foule en délire depuis l'embrasure d'une fenêtre. On a vu des larmes couler sur ses joues. Il retourne vers le berceau et il est évidemment très fier. Il contemple son fils. « Je l'envie, dit-il. La gloire l'attend alors que j'ai dû courir après elle. » Un détail savoureux, ce soir, de retour dans leur quartier, tous les sous-officiers du 1er régiment de la garde, les illustres vétérans d'Austerlitz, tous vont couper leur fameuse moustache. Pourquoi faire, me direz-vous, mais pour en faire un oreiller au roi de Rome. 7 semaines plus tard, le 9 juin, c'est le baptême à Notre-Dame. L'impérial bambin porte une somptueuse robe au point d'Angleterre. Il arrive à la cathédrale sur les genoux de Maman Q, évidemment, dans le carrosse de l'impératrice. Napoléon et Marie-Louise suivent dans le fastueux carrosse du sacre. On peut voir encore toutes ces voitures au musée de Versailles, vous savez, au musée des carrosses dans la grande écurie. À la fin de la cérémonie, l'empereur prend son fils et le soulève au-dessus de sa tête comme une offrande au peuple assemblé. Une fois de plus, ce n'est qu'un cri de joie qui s'échappe de milliers de poitrines. Tous les témoins pourraient en jurer. Le règne de Napoléon II sera glorieux. La France, enfin réconciliée, pourra connaître son apogée, à moins que le sort n'en décide autrement, à moins que cet enfant ne soit promis à un avenir tout autre. Au moment du 3e anniversaire du roi de Rome, les armées de la 6e coalition, entrées en France depuis 2 mois, se font menaçantes. Les Autrichiens sont redevenus ennemis de la France, ce qui ne facilite pas la position de Marie-Louise, née autrichienne. Vous imaginez, ça rappelle des souvenirs pas si lointains du reste. Le 24 janvier, Napoléon a embrassé son fils pour la dernière fois, il ne le reverra jamais. C'est ainsi, le 29 mars 1814, encore le mois de mars, remarquez, à 10h du matin, l'impératrice est contrainte de quitter les Tuileries avec son fils en toute hâte. Devant l'avancée ennemie, elle ira se réfugier à Rambouillet et puis c'est Blois et le chemin de l'exil. Le petit s'est battu, il ne voulait pas quitter les Tuileries, hein. « Je veux revoir mon papa », pleure-t-il. Ce sont des scènes déchirantes, le convoi de l'impératrice en fuite traverse Versailles au grand galop. Il emporte toutes sortes d'objets précieux, d'ailleurs on voit les carrosses de la cour hein, qui font une sorte de déménagement. Tout ça constitue une scène assez pitoyable et se passe sous les sifflets du public, si je puis dire. L'immense, le colossal empire s'effondre dans la poussière de ce cortège. L'empereur a renoncé au trône pour lui-même et pour son fils. Il prend le chemin de l'île d'Elbe. C'est à Vienne que se trouvent désormais Marie-Louise et son jeune fils, dont on nommait le premier prénom. On va l'appeler François, du coup, et même Franz. Et quand le 7 mars, toujours mars 1815, Napoléon quitte son île d'Elbe pour remonter jusqu'à Paris, jusqu'au trône, pour un second règne de 100 jours. L'ancienne impératrice refuse de le rejoindre. Elle fait savoir au chef de la diplomatie autrichienne, le grand adversaire de Napoléon, Metternich, elle lui fait savoir qu'elle place son fils Franz sous la protection des souverains alliés contre Napoléon. On peut dire que pour le tout jeune prince, c'est un chemin de croix qui vient de commencer et un chemin de croix qui sera long, qui sera pénible et tragique. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir, ce petit bonhomme déraciné, dépossédé de tout, à commencer par son nom ? eh bien, il va devenir un prince germanique, tout simplement. Après Waterloo et le second exil de l'empereur à Sainte-Hélène, cette fois, tout espoir est perdu pour l'étonnant de l'Empire. Le petit Franz, fils de Marie-Louise devenue duchesse de Parme, va devenir un temps duc héritier de Parme. Et puis très vite, on le nomme duc de Reichstadt en Bohême. C'est une compensation pas très brillante. Ça le fait marcher derrière les archiducs viennois. Grandeur et décadence. Le petit duc grandit néanmoins. Il grandit trop vite d'ailleurs, puisqu'à 15 ans, il mesure 1,90 m. En 1828, son empereur de grand-père, François d'Autriche, le nomme capitaine au régiment des chasseurs tyroliens, sauf qu'entre-temps, Franz a retrouvé le petit Napoléon qui sommeillait, qui grandissait en lui, dans un coin en tout cas de sa mémoire. Il a obtenu l'autorisation de fréquenter les rayons peuplés de fantômes de la grande bibliothèque impériale de Vienne. Et de lui-même, il s'est dirigé vers les ouvrages qui relataient l'épopée napoléonienne. On a beau lui inculquer, je cite, que le souverain usurpateur du trône de France, Monsieur de Buonaparte, avait un cœur inaccessible, lui ne s'est pas détourné de son père, bien au contraire. Il cherche à en savoir davantage. Le voilà, ce jeune prince qui réapprend le français tout seul dans les lettres de Madame de Sévigné, qui dévore les mémoires et souvenirs de l'Empire, qui finit par tomber sur le mémorial de Sainte-Hélène et sur les très belles pages où l'empereur déchu s'adresse à son fils quand il aura 16 ans. Eh bien, il les a, ces 16 ans. Et c'est le plus beau, le plus charmant, le plus attachant des princes autrichiens. Très grand, je vous l'ai dit, blond, noble, un visage d'archange, un port souverain. Il monte admirablement à cheval, il valse avec une grâce incomparable. Il est si séduisant que toutes les jeunes filles de Vienne se bousculent sur le passage de sa voiture au Prater. Or, au fond de lui, Franz sait maintenant de qui il est le fils. Il n'est pas le prince autrichien que tout le monde veut voir. Un nom le hante. Seulement voilà, quand on est tout seul en terre hostile, dépossédé de son identité, quoi faire? Est-ce qu'il va oser s'enfuir, rentrer au pays natal? Est-ce qu'il va oser se montrer le fils non seulement de Napoléon, mais bien de Bonaparte? C'est toute la question.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'andante de la 7e symphonie de Beethoven sur Europe 1, Franck.
Alors, ce qu'on a tendance à oublier concernant Napoléon II, ancien roi de Rome devenu duc de Reichstadt, c'est que pendant plusieurs années, la perspective de son retour sur le trône a été sérieusement considérée. L'empereur François II lui-même envisageait l'hypothèse de confier une vraie couronne à son petit-fils. Pas la couronne de France, bien entendu. Il gardait Franz dans sa manche, un peu comme un joker, si vous voulez. Or, en France même, nombreux sont ceux qui à l'époque se rappellent cette filiation et se montrent très attentifs au destin de Napoléon II. Je pense au royaliste Chateaubriand lui-même. Je le cite. « Sa mère lui donnait le passé, son père l'avenir, dit-il à propos du jeune prince. Toute la France était encore remplie de générations qui, en reconnaissant Napoléon II, n'auraient fait que revenir à la foi qu'ils avaient juré à Napoléon Ier. L'armée eut reçu avec orgueil le descendant des victoires. » Fin de citation. Il faut ici que je précise qu'en 1815, au moment de la seconde abdication, Napoléon n'a renoncé au trône qu'en faveur de son fils et que donc sur un plan institutionnel, les choses en sont restées là. Ainsi, pour toute une grosse frange de bonapartistes, le souverain légitime des Français demeure en pleine restauration bourbonienne, le jeune Napoléon II. L'actualité de ce jeune candidat s'impose au moment de la révolution de 1830. Vous savez qu'il va chasser Charles X du trône pour y mettre un Orléans. Louis-Philippe. On pense beaucoup à Napoléon II à ce moment-là. Seulement, il se trouve que, du fait peut-être de son éducation autrichienne, le prince se montre avant tout respectueux des institutions. Je cite Napoléon II ou le duc de Reichstadt. « Je manquerais au devoir que m'impose la mémoire de mon père si je devenais le jouet des factions et l'instrument des intrigues, écrit-il. Jamais le fils de Napoléon ne peut descendre au rôle méprisable d'un aventurier. » Voilà qui laisse peu de place aux initiatives personnelles. L'aiglon n'en est pas moins torturé par sa conscience, il est prisonnier d'un carcan de principes et d'orgueil. Bref, il ronge son frein en silence, il se rend malade et comme toujours dans ces cas-là, c'est sa santé qui se délabre. Autour de lui, on minimise l'affection pulmonaire qui pourtant le ronge. À qui pourrait-il se confier le pauvre ? À l'espèce d'état-major que son grand-père lui a donné. Il est composé d'officiers médiocres qui ne le comprennent pas. Son seul ami, Prokesh, décrit le jeune duc comme, je cite, « un pur sang entre deux chevaux de traite bohème et un cheval de fiacre italien ». Le prince, abandonné, souffre donc en silence. Les médecins, soit nullité, soit malveillance, le soignent pour le foie, alors que son foie va très bien. Ils ignorent ou feignent de ne pas voir la tuberculose qui s'installe. Il suffirait d'envoyer Franz chez sa mère au bon soleil d'Italie pour le voir sans doute reprendre la santé, retrouver la santé. Le 18 mars, encore et toujours, ce satané mois de mars, alors qu'il relève d'une longue convalescence, le duc de Reichstadt fait une sortie à cheval par un temps froid et humide. On est en 1532, je ne voulais pas préciser. Cette fois, les médecins sont bien obligés d'y voir clair. Dès le 15 avril, ils considèrent le prince comme perdu. On prévient sa mère en Italie, seulement Marie-Louise, qui s'est remariée avant de retomber veuve et qui maintenant est enceinte d'on ne sait pas trop qui. Marie-Louise n'est pas vraiment libre de ses mouvements. Son fils est déjà presque agonisant et il ne comprend pas ce qu'elle attend, cette mère, pour venir le serrer dans ses bras. Quand la duchesse de Parme entre enfin dans la chambre de son fils le dimanche 24 juin. Il est en train de mourir. Il fait de gros efforts pour se lever et il tombe dans les bras de sa mère en hoquetant de sanglots. Quelle vie, me direz-vous, quel destin et quelle fin. Ils pleurent tous les deux dans les bras l'un de l'autre. François, ou Napoléon si vous préférez, va mourir ce 22 juillet à 5h du matin en étouffant dans ses mains, sans s'en rendre compte, une petite grive qu'il avait apprivoisée. Voici la drôle d'homélie funèbre que la mort dramatique du jeune homme arrache en privé à son grand-père, l'empereur d'Autriche. « Il a bien fait de mourir, dit l'empereur d'Autriche. Sa position en Europe était trop difficile. Il n'aurait pu s'y faire une bonne place sans tout déranger. Sa vie aurait été un danger pour vous autres, il parle à sa famille. Sa mort n'a été un malheur pour personne, à l'exception de moi-même. » Entre nous, c'est vite dit. Parce que ce roi virtuel, cet empereur sur le papier, avait su en réalité régner sur les cœurs. Il faudra maintenant à sa mère prévenir la grand-mère, vous savez, Madame Mère Laetitia, qui à l'époque vit en exil à Rome et dont ce sera sans doute le dernier très grand chagrin. Aujourd'hui, elle apprend que le seul descendant direct de son génie de fils, Napoléon Ier, vient de mourir avant d'avoir pu fêter ses 22 ans.
Sur la musique de Beethoven, on marque une pause et on retrouve Franck Ferrand dans un court instant avec son invité sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
...13h30, 14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et dans le cadre du bicentenaire de la naissance du roi de Rome, vous recevez Franck sur Europe 1, Thierry Lenz, qui est directeur de la Fondation Napoléon.
Thierry Lenz, que j'ai grand plaisir à recevoir, c'est loin d'être la première fois que nous nous voyons à ce micro, cher Thierry.
En effet, bonjour Franck.
Merci d'être venu nous faire profiter des lumières incroyables qui sont les vôtres sur toute cette période de l'Empire et de tout ce qui s'y rattache. Nous avons évoqué un peu à la hussarde, je vous le concède, mais je voulais faire brosser l'ensemble de la destinée tellement tragique de ce jeune prince, roi de Rome devenu duc de Reichstadt, qui meurt donc en juillet 1832 à Vienne, loin de tout et de tous, quand même dans les bras de sa mère, mais il faudrait en dire un mot, elle n'a jamais été très maternelle, Marie-Louise.
Non, Marie-Louise n'a jamais été très maternelle, mais je suis généralement moins sévère que mes confrères concernant Marie-Louise. Il faut toujours se rappeler que c'est une personne qui a été jetée au premier rôle de l'histoire, alors que c'était une très jeune femme qui n'avait évidemment pas été élevée comme toutes les archiduchesses autrichiennes pour régner.
Moins pour aller épouser l'ogre de l'Europe.
En plus, oui, on lui offrait comme mari un personnage qu'elle détestait avant qu'on l'oblige à l'épouser. Bon, finalement, elle s'est assez bien comportée comme impératrice quand Napoléon était là. Et puis ensuite, elle avait 22 ans lorsqu'on lui a confié la régence de l'Empire. Alors c'est vrai que c'était un empire peau de chagrin, mais on lui a donné de telles responsabilités. Évidemment, dans le Marigot, où il y avait beaucoup de crocodiles, Talleyrand, Fouché, Cambacérès et d'autres, bon, elle n'a pas fait deux minutes.
Évidemment.
Alors ensuite, elle a eu effectivement une vie au cours de laquelle elle a très très vite oublié Napoléon. Elle s'est disons jusqu'en 1815-16, elle s'est relativement bien comportée par rapport à l'empereur, c'est-à-dire qu'elle a tenté aussi d'améliorer son sort, elle s'est rappelée qu'elle était impératrice des Français, puis ensuite la vie a repris ses droits et elle s'est mariée donc deux fois, elle a eu d'autres enfants et effectivement elle s'est pas beaucoup occupée du roi de Rome, ça c'est certain.
Oui, on peut dire qu'elle avait sans doute l'affection de toute mère pour son enfant, mais qu'elle était très occupée ailleurs, simplement. Et puis, il fallait supporter aussi ce changement de situation invraisemblable.
Puis il faut toujours se rappeler que d'abord, nous sommes il y a 200 ans, donc le rapport à l'enfant n'est pas celui d'aujourd'hui, et que cette mère-là n'est pas notre mère à nous. Hein. C'est une femme d'État, malgré tout, qui est, vous citiez tout à l'heure, les propos effectivement assez renversants de l'empereur d'Autriche au moment de la mort du de Reichstadt, mais si vous voulez on ne peut pas juger à la fois cette époque, mais surtout ce milieu d'État à l'aune de nos sentiments domestiques. C'est vrai que nous nous serions précipités, mais ça n'était pas dans la façon de faire.
Alors nous allons revenir sur l'enfance, sur l'exil, sur les tourments de ce prince, sur les circonstances de sa mort aussi, qui ont pu poser parfois quelques questions. Je voudrais quand même rappeler ce qu'est devenu sa dépouille. Évidemment, prince autrichien, il a été enterré à l'époque, il a été déposé, voilà, dans la fameuse crypte des Capucins à Vienne. Et c'est de là que Hitler, sur les conseils d'Otto Abetz, a décidé de l'enterrer à la fin de 1940, il y a donc 70 ans. Et pourquoi est-ce qu'on a tiré le duc de Reichstadt de son sommeil éternel ? Eh bien, pour le restituer à la France, ce qui était une drôle d'idée de la part d'Hitler. C'était une façon d'amadouer l'opinion française ?
Derrière toute cette affaire qui a été étudiée dans un très très bon livre et très beau petit livre par Georges Poisson,
grand archiviste,
on voit bien que l'idée de ramener le cercueil du roi de Rome vient d'abord des Français qui ont milité pour ça pendant des années, que les Allemands finalement trouvent que l'idée ça n'intéresse pas Hitler le retour de l'aiglon, mais simplement on lui propose la manœuvre suivante qui est d'attirer le maréchal Pétain à Paris à ce moment-là et d'en profiter pour installer Pétain à Versailles, alors que Laval continuera, lui, à gouverner la zone libre depuis Vichy. Et on a rarement fait le rapprochement de cette façon, et ce rapprochement se tient, Georges Poisson le démontre. Je vous rappelle que Laval est arrêté le 13 décembre 1940, et que le retour des cendres de l'Aiglon a lieu le 15, sans Pétain et sans Hitler, qui avait prévu de venir. Hitler était furieux, et on a organisé...
Du coup, c'était une cérémonie en catimini, assez bâclée, dans un hiver extrêmement froid. Les Parisiens meurent de froid, si je puis dire, et d'ailleurs, ils disent, on connaît la célèbre phrase, les Allemands nous prennent le charbon et ils nous rendent les cendres. Les cendres du petit Aiglon ont donc rejoint officiellement celles de son père dans le grand tombeau de Visconti sous la coupole des Invalides. Quand même, lorsqu'on compare le caractère assez médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette funèbre cérémonie avec ce qui s'était passé 129 ans plus tôt, c'est-à-dire la plus grande fête que la capitale aura connue sans doute pendant cette période de l'Empire, on mesure tout le tragique de cette destinée. Hein. Un enfant promis à tout et qui finalement n'aura rien eu de la vie. C'est assez terrible.
Oui, le duc de Reichstadt a eu lui-même une phrase sur son destin qui est au fond assez juste, et comme c'est lui qui l'a dit, on va l'apprendre, c'est « ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire ». Et effectivement, c'est un personnage qui est surtout légendaire, qui est surtout mythique, mais quand on regarde son bilan réel, en quelque sorte, c'est un jeune homme qui a qui a vécu un peu plus d'une vingtaine d'années, qui aurait pu avoir un destin mais ne l'a pas eu, et qui au fond n'a joué toujours que par procuration un rôle dans l'histoire de France.
Et qui reste néanmoins une figure extrêmement sensible pour une grande partie des Français encore aujourd'hui, peut-être aussi grâce à la pièce que qu'Edmond Rostand avait tirée hein, de cette destinée, ce fameux aiglon que Sarah Bernard avait immortalisé.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et on s'intéresse cet après-midi sur Europe 1 à l'aiglon avec votre invité, l'historien Thierry Lenz, Franck.
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon et qui nous parle donc de ce personnage né il y a 2 siècles. C'était hier l'anniversaire exactement, le 20 mars 1811. 20 mars 2011, ça fait effectivement pile 2 siècles. Destinée tragique que celle du duc de Reichstadt, qui a pris ce surnom de l'aiglon depuis la pièce d'Edmond Rostand. On disait l'aiglon avant d'ailleurs en fait,
oui, hein, oui,
l'expression
mais
existait, mais elle n'était pas consacrée.
Oui, oui.
Alors, on va pas s'attarder très longtemps sur son enfance, finalement c'est une petite enfance très heureuse qu'il a, avec un père très attendri, Napoléon, et est un vrai papa gâteau. Hein,
oui, c'est un papa gâteau, mais d'ailleurs on a beaucoup de témoignages, il aimait les enfants, il n'y a pas de doute. Alors le sien, c'était encore, enfin on lui trouvait évidemment toutes les qualités.
Quand on dit le sien, il faudrait juste préciser qu'il y en a eu d'autres.
Il en a eu d'autres, dont il s'est d'ailleurs assez bien occupé.
Le comte Léon.
Oui. Il s'est beaucoup occupé d'eux, alors pas par sa présence, parce qu'il était très délicat pour l'empereur de faire venir ses bâtards, comme on disait, à la cour. Il avait beaucoup plus de pudeur de ce côté-là que les rois de France. Mais effectivement, il s'en est toujours assez bien occupé. Il les a dotés, il s'est fait occuper d'eux. Par exemple, le petit Léon, qui était son premier enfant, a été confié à son secrétaire Menval, qui en a d'ailleurs souffert toute sa vie, car c'était un enfant très difficile à manier. Et donc, il a effectivement, il s'est assez bien occupé de son fils, mais il s'en est là aussi occupé comme le successeur de la couronne.
Mais ça, c'est toute la question de la légitimité du roi de Rome. Pour Napoléon, ça y est, la dynastie est installée. En tout cas, si cet enfant survit et arrive à maturité, il va pouvoir prendre la suite, en quelque sorte, ce qui est extraordinaire pour lui, puisqu'il a fondé une dynastie. Et en même temps, on a l'impression que, non seulement dans l'opinion, mais dans l'entourage le plus proche de l'empereur, cette légitimité fait question. Et le meilleur exemple, c'est la fameuse conspiration du général Mallet en octobre 1812, où l'on voit que l'archichancelier Cambacérès, que le ministre de la police Savary, etc., oublie le roi de Rome. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase du comte Frochot qui dit « C'est vrai, ce diable de roi de Rome, on l'oublie toujours. »
Oui, c'est vrai. Alors, je crois que vous venez de toucher du doigt le problème, le cœur du problème du Premier Empire, c'est le problème de la légitimité. Et Napoléon le savait. C'est-à-dire que pourquoi Napoléon a-t-il organisé d'extraordinaires cérémonies pour le baptême du roi de Rome? Alors je vous rappelle que les enfants des rois de France étaient baptisés dans l'intimité familiale. C'est tout simplement pour marquer ce côté légitime et par l'image. Il voulait augmenter une légitimité qui, sur le plan politique, était quand même assez fragile. Et l'affaire du général Mallet le montre bien. Alors, sur le plan du coup d'État, c'est rien du tout, l'affaire du général Mallet. Mais ça révèle,
que la fragilité de ce régime.
Voilà. Alors on a pensé à protéger le roi de Rome, on a pensé à protéger l'impératrice, mais par exemple, le préfet de la Seine, Frochot, au lieu de proclamer Napoléon II, il a ouvert les salons de l'hôtel de ville aux conspirateurs. Et effectivement, alors après...
Tout ça, évidemment, est vite balayé par l'histoire, puisque Napoléon chute en 1814, puis après les 100 jours en 1815. À partir de 1815, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il remonte sur le trône en 1815, son épouse et son fils ne sont pas là déjà.
Ils sont
à Vienne.
Oui. Alors il a d'ailleurs, pour faciliter le retour de l'île d'Elbe, Napoléon a beaucoup menti. C'est-à-dire qu'il a fait croire qu'il était d'accord avec la cour de Vienne pour que le roi de Rome et l'impératrice le rejoignent rapidement, donc ce qui était faux. Il a évidemment remis en place la constitution de l'an 12 en ce qui concernait l'hérédité, et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, il a abdiqué conditionnellement, c'était donc à condition que Napoléon II devienne empereur, mais lui-même, on a des témoignages sur la scène de l'abdication, lui-même, immédiatement après avoir signé, dit à son entourage, il va falloir vous débrouiller avec les Bourbons. Il savait très bien
savait ce qu'il en était. D'ailleurs, je regardais ça en préparant cette émission. Lorsqu'on prend les nomenclatures des souverains français et même des chefs d'État, Napoléon II ne figure pas. Alors qu'on pourrait dire qu'institutionnellement, il a bien régné, néanmoins.
Il a régné selon les constitutions de l'Empire. Alors, petite rectification, on dit toujours, mais vous ne l'avez pas dit, mais on dit toujours qu'il a été proclamé empereur par les chambres. C'est faux, hein, ça faisait partie de la propagande bonapartiste du 19e siècle, mais il n'avait pas besoin d'être proclamé empereur par les chambres puisqu'il était l'héritier naturel du trône.
Et pendant très longtemps, il ne le sait pas, en quelque sorte, puisqu'il est élevé à Vienne par des gens qui font très attention à ne jamais prononcer le nom de son père devant lui. Il est devenu Franz. On ne lui donne même pas l'héritage de du duché de Parme, il devient simple duc de Reichstadt. On a l'impression que pour la cour de Vienne, c'est un sacré fardeau que ce gamin qui arrive dont on ne peut dire qu'il est finalement que le fils de l'empereur des Français. C'est difficile à gérer, ça.
Oui, alors, disons que...
Metternich, notamment, ne pouvait pas l'accueillir à bras ouverts.
Évidemment, mais il y a un vieil adage autrichien, enfin, habsbourgeois, qui dit « l'empereur d'Autriche n'a pas de fille ». Donc, l'empereur d'Autriche n'avait pas non plus de petit-fils. Mm-hmm. Il l'aimait, effectivement. On a des témoignages sur...
Il était très aimable, il faut dire.
Voilà, sur le comportement de François Ier d'Autriche. En revanche, la politique primait tout. Et très longtemps, le roi de Rome a été un instrument dans les mains de la diplomatie autrichienne. Il faut toujours se rappeler que les derniers à avoir soutenu la dynastie des Bonaparte en 1814, mais même un peu en 1815 avec beaucoup de prudence, ce sont les Autrichiens, parce qu'ils savaient bien que Napoléon II resterait quand même le petit-fils de l'empereur d'Autriche. Donc on l'a utilisé dans un premier temps pour faire pression sur les puissances au moment de la paix générale, et puis ensuite on l'a sorti de sa boîte à l'occasion pour les affaires de Pologne, pour les affaires de Belgique, pour les affaires d'Italie.
Et puis lui, néanmoins, et on a envie de dire tout seul, s'intéresse à sa destinée, s'intéresse à son père. Il veut en apprendre davantage sur cette saga napoléonienne et il veut comprendre quelle est la dynastie, quel est le sang qui coule dans ses veines.
Oui,
c'est assez admirable cette histoire.
Oui. Alors, disons que dans la pièce d'Edmond Rostand évidemment, là c'est
si vous voulez, Thierry, on va entendre d'ailleurs, un extrait du premier acte où le duc de Reichstadt s'emporte contre sa mère, contre l'impératrice. Marie-Louise.
Vous êtes le premier après les archiducs. Et vous épouserez un jour quelque princesse ou quelque archiduchesse ou bien...
Sans cesse, je revois, tel qu'enfant, je l'entrevis un jour, son petit trône, au dossier rond, comme un tambour, et d'un or qu'a rendu plus divin Sainte-Hélène au milieu du dossier, petit et simple, l'aine, la lettre qui dit non au temps.
Mais...
Je revois l'aine dont il marquait à l'épaule les rois.
Les rois dont vous avez du sang par votre mère.
Je n'en ai pas besoin de leur sang. Pourquoi faire ?
Ce fameux héritage !
Il me semble mesquin.
Quoi ? Vous n'êtes pas fier du sang de Charles Quint ?
Non, car d'autres que moi le portent dans leurs veines. Mais lorsque je me dis que j'ai là dans les miennes celui d'un lieutenant qui de Corse venait, je pleure en regardant le bleu de mon poignet.
Franz !
À ce jeune sang, le vieux ne peut que nuire. Si j'ai du sang des rois, il faut qu'on me le tire.
Taisez-vous !
D'ailleurs, que dis-je ? Si j'en eus, je suis sûr que depuis longtemps, je n'en ai plus. Les deux sangs ont en moi dû se battre, et le vôtre aura, comme toujours, été chassé par l'autre.
Tais-toi, duc de Reichstadt !
Oui, Metternich, ce fat croit avoir sur ma vie écrit duc de Reichstadt. Mais haussez au soleil la page diaphane, le mot Napoléon est dans le filigrane.
Mon fils.
Duc de Reichstadt, avez-vous dit ? Non ! Non ! Et savez-vous quel est mon véritable nom ? C'est celui qu'au prater la foule qui s'écarte murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils.
Oh, tu me fais mal.
Oh, ma mère. Pardon, ma mère. Allez au bal. Oubliez ce que j'ai dit là, c'est du délire. Vous n'avez pas besoin même de le redire, ma mère. Metternich.
Non, je n'ai pas besoin.
La valse avec douceur vient de reprendre au loin. Non, ne lui dites rien.
Non, ne lui dites rien. C'est la voix de Pierre Vanneck qui a été, après Sarah Bernard, merveilleux Pierre Vanneck, qui a été le plus grand aiglon, on peut dire. Alors, c'est Jacques qui nous dit par Internet, j'ai jadis assisté au Châtelet à la représentation de l'aiglon. Pourquoi ne remonte-t-on pas cette pièce? Eh bien, si. Voilà, Jacques, j'ai sous les yeux l'annonce de la pièce, donc de l'aiglon, qui est montée en ce moment au théâtre de Saint-Maur. Donc, il faut aller dans l'Est de Paris, au Théâtre de Saint-Maur, en ce moment. On joue précisément l'aiglon pour le bicentenaire de la naissance du roi de Rome. Dans un instant, nous allons voir avec Thierry Lenz, le patron de la Fondation Napoléon, nous allons voir quels ont été les complots et quels ont été les espoirs qui se sont tramés dans l'entourage du duc de Reichstadt.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand.
Avec à la une aujourd'hui sur Europe 1, le destin tragique du roi de Rome, Franck.
Dont c'est aujourd'hui, ou dont c'était hier, le bicentenaire. Ce roi de Rome devenu simple duc de Reichstadt à la cour de Vienne et autour duquel un certain nombre de complots bonapartistes vont se monter, Thierry Lenz.
Oui, il y a évidemment eu beaucoup d'espoir de pouvoir aller libérer, entre guillemets, le duc de Reichstadt. Il y a des complots italiens parce que très longtemps on a cru qu'il allait parvenir à l'unité de l'Italie. Et puis il y a eu le complot un peu fantasque de sa cousine,
oui, hein,
la comtesse Camerata, qui était une
Napoléone Camerata.
Voilà, une fille d'Elisa Bonaparte. Qui a voulu l'enlever, enfin disons-le comme ça, et qui a pu le rencontrer. Donc il y a eu des contacts. Il y a eu d'ailleurs l'Aiglon a eu des contacts avec le maréchal Marmont, avec des anciens de l'épopée. On disait tout à l'heure qu'il avait été enfermé à Vienne. Il a quand même eu assez vite conscience de qui il était. Mais c'est vrai que c'est un peu plus tard qu'il a réussi, grâce au mémorial, grâce aux rencontres qu'il a faites, grâce à un ami. Il a eu un ami très proche qui s'appelait Prokesh, qui a laissé des souvenirs de leur conversation. Il a pu, à ce moment-là, mieux se rendre compte de qui il était.
Est-ce que Metternich le faisait surveiller, on imagine?
Oui, bien sûr. Mais la police viennoise était une des polices les mieux faites. Hein. On savait très exactement qui il voyait, ce qu'il faisait, et c'est pourquoi les légendes sur sa postérité apparaissent tout à fait exagérées, en tout cas.
Parce qu'on sait qu'en fait, il n'y a pas eu du tout de.
Non, en principe, on a beaucoup dit qu'il avait eu une relation avec la fameuse Sophie, la femme de François Joseph, la méchante de Sissi.
Schneider,
mais qui était en fait une femme absolument charmante, et que tout ça aurait peut-être terminé par le général Weygand, mais enfin tout ça est une légende.
Oui, vous n'y croyez pas. De même que vous ne croyez pas, j'imagine, aux rumeurs de complot qui auraient été jusqu'à la mort du duc de Reichstadt.
Non, mais il est vrai que on sait de quoi il est mort. Hein. Il y a quand même beaucoup de témoins. J'ignore si on l'a autopsié. Je viens de me poser la question. Certain, c'est que ce que vous citiez tout à l'heure de l'empereur François est exact. Pour la politique européenne, il est mort absolument au bon moment pour libérer d'un poids la cour de Vienne.
Oui. La cour de Vienne avait un souci de moins au moment même où la branche cadette des Bourbons accédait au trône de France, qui plus est.
Oui, et où les forces centrifuges de l'Empire d'Autriche étaient données à plein. Oui.
Alors, une conférence aura lieu, je vois, c'est le 30 avril, c'est ça, la naissance du roi de Rome. C'est à l'auditorium de la bibliothèque Paul Marmottan, à Boulogne-Billancourt. Oui. Donc ça, c'est sur la naissance du roi de Rome.
C'est Laetitia De Witt qui publie un livre sur le roi de Rome, hélas seulement en septembre.
Ah oui, avec un tout petit peu de retard, mais enfin, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une exposition, petite exposition dossier au château de Fontainebleau. Il faut aller à Fontainebleau, je ne cesse de le dire, on va croire que j'ai des intérêts dans cette affaire, mais c'est que c'est tellement beau, merveilleux, quel endroit de mémoire extraordinaire, à mon avis, insuffisamment visité et connu du public. Et puis alors, évidemment, vous, Thierry Lenz, on n'en finirait pas de citer tous vos ouvrages sur le Premier Empire, et d'ailleurs sur les empires, La nouvelle histoire du Premier Empire, c'est le dernier en date. Et là, vous êtes en train de vous consacrer à tout autre chose. J'allais dire, ça fait du bien. En plus, vous vous consacrez à un personnage que j'adore, qui est le très grand peintre espagnol Velázquez. Voilà. Ça s'appelle « Une passion promenade dans la crucifixion de Velázquez ».
Oui, donc c'est un livre sur un seul tableau, son histoire, pourquoi a-t-il été peint comme ça et pourquoi à ce moment-là.
Et le tableau en question, c'est la fameuse crucifixion.
C'est la crucifixion qui se trouve au Prado. Ouais.
Et ça sort le 2 avril
chez Perrin.
Voilà. Merci infiniment d'avoir été notre invité et de nous avoir précisé, de nous avoir donné des précisions sur cette figure extraordinaire du roi de Rome. Le 20 mars, c'est donc l'anniversaire du roi de Rome. C'était aussi celui de Faustine Bollard. Avec
merci,
un tout petit
Franck.
Peu de retard, bon anniversaire.
Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Dans quelques mois, on sera en grandes vacances. Juillet et août, une période de l'année où les jeunes vont pouvoir et vouloir peut-être effectuer des petits jobs. Eh bien, c'est maintenant la période idéale pour se lancer à la recherche du job d'été. Comment le trouver? Quels sont les pièges à éviter? Les bons plans à connaître? Nous allons répondre à toutes vos questions. Et on parle parlera également de droit fiscal. Nos jeunes doivent-ils déclarer leurs revenus? Une question pas si anodine que ça, vous le verrez. Et puis, si vous-même vous insistez pour que votre fils ou votre fille travaille durant la période estivale, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des moments essentiels qu'il doit absolument vivre? 39-21 pour partager vos questions, vos témoignages et vos souvenirs peut-être avec nous en direct sur Europe 1, Franck.
Encore un rite initiatique. Merci beaucoup, Faustine.
Merci à vous,
et
Franck.
À demain, Julia.
À demain, Franck Ferrand sur Europe 1, bien entendu.